Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cet été, nous vous proposons une série d'émissions spéciales consacrées à l'industrie, notamment aujourd'hui les gigafactories. Depuis quelques mois, les projets d'installation se multiplient en France. Certains ont déjà abouti, comme Prologium qui va s'installer dans le Nord. Pour d'autres, on attend encore la décision. C'est le cas par exemple de Moderna ou encore du constructeur automobile chinois BYD et même de Tesla. Eh bien, on fera un point sur tous ces projets avec notre journaliste Alexandra Pagé qui est en plateau avec moi pour cette émission spéciale. Nous réécouterons également Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, un président évidemment très heureux de la giga-vallée de la batterie électrique qui est en train de se constituer dans sa région. Enfin, nous serons en duplex avec Damien Py, ardent défenseur de la production industrielle en France. Après l'aventure du mini lave-vaisselle Bob, eh bien, il a créé BIM. BIM, c'est la banque des industries manufacturières, un outil au service du financement des projets industriels. On en parlera donc avec lui à la fin de l'émission. C'est donc le retour en grâce, si possible, de l'industrie. Ce sont en tout cas via les TPE, via les PME et même les ETI. Mais on l'a constaté cette année, eh bien, ce sont aussi des grands groupes français ou étrangers qui décident d'implanter en France des gigafactories, des méga-usines, pour être à peu près correct en français. Le sujet est au cœur de l'actualité économique ces derniers mois. Au mois de février, j'avais même reçu Guillaume Gau, un contributeur du think tank Le Millénaire. Il venait de sortir une étude intitulé Méga Usine, les 5 projets étrangers que la France ne doit pas rater en 2023. Et je l'avais interrogé sur les points forts et les points faibles de la France pour séduire les investisseurs étrangers. Écoutez ses réponses. Si vous deviez définir, identifier les points forts et les points faibles de la France en matière d'attractivité pour ces grands groupes étrangers.
Déjà, je trouve que dans les dernières années, il y a eu une baisse des impôts de production, donc ça compte. Il y a également le fait qu'il y a eu la mise en place de terrains clés en main, c'est-à-dire de terrains où les usines peuvent venir et toutes les autorisations sont déjà délivrées. Ensuite, que faire pour améliorer ? Il y a vraiment les délais d'implantation. Donc, Bruno Le Maire disait que les délais moyens pour faire une usine en France, c'est 17 mois. Et en Allemagne, c'est encore 8 mois.
Et qu'est-ce qui explique ça ? C'est la lourdeur administrative, fameuse lourdeur administrative, ou est-ce que c'est plus complexe que ça ?
Il y a des délais d'autorisation environnementale, des choses qu'on pourrait, au lieu de les faire à la suite, les paralléliser, faire tous ces processus administratifs en même temps pour réduire leur durée globale.
Et c'est pour ça qu'on a raté de gros projets. On a parlé de l'usine Tesla qui a choisi l'Allemagne, etc. Est-ce que ça fait partie des motifs d'échec des grands projets que l'on a ratés en France ?
Oui, alors il y a un point d'abord, c'est que tous les facteurs ne sont pas dans la main des gouvernements. Par exemple, je pense à Tesla qui voulait faire son usine en Allemagne parce que Elon Musk voulait aussi avoir l'image allemande. Ouais. Mais il y a des facteurs clés pour attirer l'usine qui sont dans nos mains. Et donc, par exemple, sur Intel et Tesla, il y a les questions des délais, la question de grands terrains disponibles rapidement. Et donc là, la France n'a pas été la meilleure. L'Allemagne a été plus efficace. Donc.
Et puis, vous le dites, les projets en France sont moins créateurs d'emplois et ce sont souvent des extensions de sites. En fait, on a l'impression dans l'industrie que c'est le même problème que pour le tourisme. On attire du monde, mais ils ne dépensent pas assez. C'est un petit peu la même logique.
Hein. C'est vrai. Ça vient d'une étude de EY sur l'attractivité qui montre que la France est le pays qui attire le plus d'implantations industrielles, mais ces projets sont plus petits et créent moins d'emplois que l'Angleterre ou l'Allemagne. Donc il y a un vrai sujet sur les gros sites industriels.
On est souvent dans les classements européens, on va avoir une carte d'Europe, voilà, on est en deçà pour la part de l'industrie dans l'économie, on est je crois à 16,8 sur les chiffres qui sont dans votre rapport contre une moyenne européenne de 23. Vous êtes confiant dans ce rattrapage nécessaire de l'économie française sur ce point seul de l'industrie ?
Oui, je suis confiant. Si on arrive à mettre en place ces mesures, je suis assez confiant. Et pour moi, la part des implantations étrangères est vraiment importante. Et je pense par exemple à Toyota. Toyota qui est aujourd'hui, qui est devenue cette année la première usine de production automobile de France. Donc Toyota s'est implantée il y a 20 ans à Valenciennes. Donc oui, ces implantations étrangères sont vraiment importantes pour réindustrialiser.
Voilà donc pour ce très bel exemple de Toyota qui est arrivé donc dans le Nord en 2001, qui est devenu depuis la première usine automobile française. Alors quand Guillaume Gault était venu nous voir, il mettait en avant 5 gros projets industriels: Prologium, Moderna, BYD, VinFast et Samsung Electronics. Alexandre Apagé, bonjour.
Bonjour.
Où en est-on de ces 5 projets contenus dans l'étude de Guillaume Gault?
Alors, Prologium Technologies, c'est fait. Hein. Le président de la République l'a annoncé en grande pompe à Dunkerque en mai dernier. Le géant taïwanais a choisi la France et installera dans le Nord son usine géante de batteries pour les voitures électriques. Investissement 5 milliards d'euros. Également bien parti, pas tout à fait une gigafactory au sens littéral du terme, puisqu'il s'agit, Jérôme, de Moderna. Le groupe américain dirigé par un Français, Stéphane Bancel, est en discussion avec plusieurs gouvernements pour implanter une méga-usine de vaccins sur le continent. La France est au cœur des discussions. Investissement 1 milliard d'euros et c'est crucial pour la souveraineté française dans le domaine des médicaments.
Et les 3 autres projets, BYD, VinFast et Samsung?
Alors pour VinFast et Samsung, ces dossiers ne sont plus d'actualité. Quant à BYD, le constructeur chinois de voitures électriques qui est en passe de rafler la première place du podium devant Tesla, cherche lui aussi une implantation européenne. Le groupe souhaite construire 2 usines en Europe, une usine de batterie et une usine d'assemblage avec une capacité de 800 000 véhicules par an. C'est énorme. La France serait en lice pour accueillir l'usine d'assemblage, en compétition en ce moment donc avec l'Allemagne, l'Espagne, la Hongrie et la Pologne.
Réponse dans quelques semaines. Vous parliez, Alexandra, de Tesla. On a précisément beaucoup parlé d'une possible arrivée du groupe en France. On en est où? C'est fait ou pas?
Alors, c'est l'inventeur de la Gigafactory déjà, hein, du terme Gigafactory, je vous le précise. On pense que Tesla veut construire une deuxième usine en Europe, sans doute consacrée aux mégapacks. Alors les mégapacks, ce sont les stations de stockage d'énergie, c'est fondamental dans cette industrie-là. Celle de Berlin, l'usine de Tesla à Berlin, dans laquelle il a investi entre 6 et 7 milliards d'euros, est consacrée, elle, aux batteries. Alors là aussi, la France est sur les rangs, l'État s'implique à fond sur le projet qui pourrait créer près de 10 000 emplois. C'est énorme aussi. Le président de la République a personnellement défendu le dossier auprès d'Elon Musk en s'entretenant avec le fondateur de Tesla qui était donc invité du sommet Choose France à Versailles également en mai dernier. La candidature de Valence en Espagne a d'ores et déjà été écartée, ce qui nous laisse une chance supplémentaire pour cause de fuite dans la presse.
Et qui dit Gigafactory, c'était surtout cette année au cœur de la vallée de la batterie électrique qui est en train de se structurer dans les Hauts-de-France. Alors, petit tour d'horizon de ce que sera cette future vallée.
Alors, pour commencer, Vercors. On va commencer par là. La start-up française fondée par un pionnier du véhicule électrique devenu fabricant de batteries pour Renault qui a pris une participation, Renault donc, de 20% au capital de l'entreprise Vercors. Et donc, Vercors va installer sa méga-usine, encore une fois, à Dunkerque. Un Northvolt à la française, à l'image de cette entreprise suédoise, Northvolt, qui fournira, elle, le groupe Volkswagen en cellules de batteries électriques. En 2025, Vercors pourrait fournir 300 000 véhicules, soit 16 gigawatt-heures de cellules, dont 10 sont réservés à Renault.
Et la deuxième grosse entreprise de cette future vallée de la batterie, c'est Envision.
Et Envision AESC, l'usine est en construction en ce moment à Douai, au pôle électricité de Renault. Investissement 2 milliards d'euros. Elle alimentera, elle aussi, cette usine, l'alliance Renault-Nissan, en batteries électriques toujours. Cette entreprise nippo-chinoise vise 15% de part du marché des batteries en 2026, et son PDG prédit une augmentation rapide du marché européen des véhicules électriques pour devenir, selon lui, l'un des plus grands marchés mondiaux. Aujourd'hui, c'est la Chine.
Et on poursuit avec une co-entreprise française qui sera également présente dans cette vallée de la batterie, c'est ACC.
Alors, Automotive Sales Company est une co-entreprise française appartenant à la fois à Stellantis, Mercedes et Total Energy au travers de leurs activités batteries électriques. L'usine vient d'être inaugurée le 30 mai dernier à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Sa mise en service est prévue durant l'été, cet été. Au menu, cellules prismatiques lithium-ion. En lieu et place des carteurs, cylindres, bielles, vilebrequins, culasses, enfin bref, je parle aux
spécialistes de la mécanique, Alexandre.
Spécialiste de mécanique, certainement pas moi, comme un symbole, si vous voulez, de la mutation en cours de l'industrie automobile.
Et puis donc, bien sûr, cette vallée, c'est aussi Prologium, dont vous avez déjà parlé.
Ben alors voilà, cette vallée de la batterie, elle ne serait pas complète, donc j'y reviens, sans l'annonce du Taïwanais Prologium Technology, dont je vous parlais tout à l'heure, qui installera donc sa gigafactory de batteries électriques également dans la région.
Merci Alexandra, et je précise qu'à l'occasion d'une émission spéciale de La France à tout pour réussir, je m'étais rendu en décembre dernier dans cette vallée de la batterie qui est en train d'émerger sur plusieurs sites, notamment près de Dunkerque. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avait alors répondu à mes questions. On va réécouter cet entretien. La température était normale pour le mois de décembre, un peu moins pour le mois de juillet et d'août. On réécoute en tout cas Xavier Bertrand. Pourquoi la région Hauts-de-France considère-t-elle comme très importante la batterie électrique ?
Parce qu'on a pensé que c'était l'avenir de l'industrie automobile. Tout le monde a maintenant en tête cette date de 2035. En Europe, la fin de la production des moteurs thermiques, essence et diesel. Et très vite, parce qu'on veut absolument réussir la transformation de la région, puis aussi étant passionné d'automobile, j'ai aussi compris que c'était là qu'il fallait investir. Donc on leur a dit, cette usine qui devait d'ailleurs au tout départ s'installer plutôt dans une autre région, j'ai dit, on va être dans la course et on fera le maximum pour que ça s'implante ici. Et Carlos Tavares, qui est peu friand des politiques, moins qu'on puisse dire.
Oui,
il est très cage, je vais l'être également. Il a été très étonné qu'on soit capable en 15 jours de dire banco, la région mettra 80 millions d'euros pour avoir cette entreprise ici, et les intercommunalités ont mis 40 millions d'euros. On a fait une lettre d'intention en 15 jours. Ils ont dit, ouais, mais délibération, ce serait mieux. 15 jours après, il y avait une délibération complète, une réunion extraordinaire pour dire, on y va. C'était la première gigafactory en France, dans les Hauts-de-France. Ça a été ça, l'idée. Parce que, vous voyez, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on continuera à produire pour l'automobile dans les Hauts-de-France. On est la première région automobile avec plusieurs constructeurs. Eh bien, on continuera à avoir des emplois. Et ça, c'est important.
C'est un enjeu aussi de souveraineté, parce qu'on a peut-être un peu marre aussi des batteries made in China. C'est important de faire du made in Europe et made in France.
Mais attendez, allons jusqu'au bout des choses. On était en Europe les champions du monde des moteurs thermiques, les champions du monde. Et on a décidé, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, de dire non mais on est les champions du monde maintenant à faire de la batterie électrique. Ah mais les champions du monde c'était les Chinois, quand même insensé comme attitude. Bon, le vin est tiré, il faut le boire. Moi je fais confiance aux constructeurs européens, puis en plus à nos constructeurs à nous, c'est-à-dire Renault, Stellantis, pour redevenir les champions. Mais il fallait aller vite. Alors certains m'ont dit, oui mais si vous prenez ACC, vous n'aurez pas les autres. Et moi je me suis battu pour que l'on ait tout l'écosystème de la batterie électrique. Et c'est comme ça qu'on a obtenu une vision à Douai, en mettant aussi avec de l'argent la région avec Renault, et puis aussi Vercors à Dunkerque. Mais je ne m'arrête pas là, parce que je suis intimement convaincu qu'on peut avoir maintenant beaucoup de sous-traitants. Je suis en train de regarder maintenant pour le raffinage du graphite qui vient avant la production, et aussi sur le recyclage des batteries. Parce que quand vous avez les trois usines, vous pouvez avoir d'autres usines. Et nous sommes encore en pourparler avec d'autres constructeurs sur l'écosystème de la batterie, parce qu'encore une fois, je crois que contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas des aimants qui se repoussent, les gigafactories, mais qui attirent encore et encore les emplois et l'activité. Mais on a un défi.
Et en termes d'emploi, que ce soit donc les entreprises ou les sous-traitants, c'est quel objectif à l'horizon 2030, emploi direct et emploi indirect ?
Écoutez, sur les emplois directs, on sera à 7 500, et les emplois indirects, on nous dit deux fois plus. Alors, je préfère laisser parler le monde de l'économie, parce que quand un politique annonce des chiffres en matière d'emploi, personne n'y croit. Donc, eux nous disent 7 000 et ce sera 15 000 à 20 000 emplois. Mais j'ai un défi, c'est qu'il faut les trouver, les emplois. Et on a décidé de se mettre en mode projet pour aider ACC dans un premier temps, mais aussi Envision à Douai pour Renault et Vercors à Dunkerque, pour que l'on puisse mettre en place une task force spécifique pour formation initiale, formation continue, reconversion, formation des demandeurs d'emploi, à leur permettre de trouver ce personnel. Parce que tous les projets que nous avons encore pour développer cette vallée de la batterie, il faut absolument qu'ils puissent trouver le personnel, et je peux vous dire que c'est aujourd'hui la priorité des priorités, et on va les trouver.
Un mot que Xavier Bertrand va danser le thème de cette émission sur les fonds européens qui soutiennent de très nombreux projets, dont les batteries électriques. C'est capital, c'est essentiel, l'apport de l'Europe dans la transformation des Hauts-de-France.
Moi, je suis un Européen exigeant, mais je suis un Européen convaincu. Merci l'Europe. Parce que là, sur les batteries, elle a aussi surtout donné son feu vert pour que les aides d'État ne soient pas qualifiées comme telles et qu'on puisse justement enfin avoir en Europe ce qu'il nous fallait pour faire concurrence à la fois aux Américains et aussi aux Chinois. Mais on a aussi de nombreux projets. Il faut savoir que sur le prochain programme opérationnel, dans la région des Hauts-de-France, ça sera 1,3 milliard. Et que sur le précédent programme opérationnel, 100% des crédits auront été consommés. Et puis on a un immense projet dans la région qui est le canal Seine-Nord Europe. C'est l'autoroute fluviale entre le bassin de la Seine, Paris et Dunkerque. Et là, ce sont aussi des fonds européens. On n'aurait pas eu l'Europe, on ne l'aurait pas fait. Ce sont les collectivités locales qui prennent le risque, qui pilotent ce projet, mais on n'aurait pas eu l'Europe. Ça ne se faisait pas.
On en a parlé dans cette émission, on en a parlé avec Daniel Leca, avec Jérôme Desaubry, etc. Comment vous expliquez que l'Europe, malgré tous ses investissements, malgré le concret qu'elle apporte, a si mauvaise presse dans la région, mais en France de manière plus générale?
Attention, si mauvaise presse, il y a beaucoup de politiques qui aiment beaucoup taper sur l'Europe pour masquer leurs insuffisances. Et puis, il y a eu un sport national en France qui consistait « Ah, si ça ne va pas, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Europe ». Non, la vérité, c'est ce qui ne va pas en Europe, il faut le réformer, mais sur ce qui va, il faut aussi le reconnaître et le dire. Et moi, je n'hésite pas à dire à chaque fois merci l'Europe quand c'est le cas. Bon, on a fait notamment un immense port à Calais, il n'y aurait pas eu l'Europe, il se faisait pas. Non, ce que je crois surtout, c'est que les Français sont au final attachés à l'Europe, parce qu'ils savent que l'Europe les protège. Mais un peu de pédagogie et de courage de la part des politiques pour dire merci l'Europe à chaque fois que l'Europe est là, c'est pas interdit, c'est plutôt recommandé. Maintenant, il y a aussi un autre point, je vous dis ce qui va, les points sur lesquels il faudrait que l'Europe soit plus forte. Tiens, prenez à nouveau les batteries. Quand M. Biden dit que pour avoir les financements, les primes, il faudra que les batteries soient faites aux États-Unis. Quand vous avez les Chinois qui font des taxes à l'importation, on va continuer à faire
pareil alors.
On va continuer à faire les ravis de la crèche et dire c'est pas bien ce qu'ils font.
Est-ce qu'il faut qu'on fasse pareil ou que eux baissent un petit peu leur
intention? On va faire pareil pour commencer si on veut les faire baisser dans leurs intentions. Parce que de toute façon, c'est la politique de la réciprocité, c'est la politique du bras de fer. Et ce langage-là, tout le monde le comprendra, mais l'Europe ne peut pas prendre des mois et des mois de retard, voire des années. Les Américains disent les aides, ce sera pour les batteries produites aux États-Unis. C'est votre droit. Les aides pour les véhicules électriques en Europe, ce sera pour des batteries produites en Europe. Et en plus, elles sont en train d'arriver. Et pour les Chinois, c'est de leur dire, on ne peut pas rentrer sur votre marché, vous ne pouvez pas rentrer. Et là, vous allez voir que du jour au lendemain, ça va s'apaiser. Et plutôt que d'engager des procédures devant l'OMC qui n'aboutiront que dans des années, si jamais ça aboutit, ça s'appelle tout simplement se faire respecter. Voilà.
Voilà donc pour cette interview de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, réalisée donc au cœur de cette vallée, la batterie électrique. C'était au mois de décembre dernier. Bonjour Damien Py.
Bonjour Jérôme.
Le climat est complètement différent. Donc en général, quand on se parle, on parle beaucoup de la Vendée, mais je crois que là, on est évidemment au cœur de l'été. On est au mois d'août, donc vous êtes du côté de la Drôme, et ça donne de magnifiques images. Merci en tout cas d'être l'invité de cette émission spéciale où l'on parle beaucoup de l'industrie en France. Alors je rappelle en quelques mots votre parcours. Vous étiez le cofondateur de Dantec, l'inventeur entre autres du fameux mini lave-vaisselle Bob, made in Vendée, dont on a longuement et souvent parler dans cette émission. Votre nouvelle aventure porte un nom, presque une onomatopée, c'est BIM. Racontez-nous ce qu'est BIM.
Nous, en fait, BIM, ça partait du constat vécu pendant 6 ans chez Dantec, que faire du hardware en France, donc des produits physiques, c'est quelque chose qui est dur à financer. Et donc, en fait, on a créé le BIM Group, où nous, en fait, on vient accompagner les projets en haut de bilan pour leur permettre, alors en phase d'amorçage, pour leur permettre d'industrialiser et de mettre leurs produits sur le marché. Et derrière, on apporte aussi un soutien sur toute la partie opérationnelle et industrielle pour que ça se passe bien et que l'entreprise arrive à ses premiers millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est consolidé une petite quinzaine de salariés et on a 5 entreprises au portefeuille et on vient de clôturer nos 2 premières levées de fonds sur deux entreprises du portefeuille.
On va revenir voilà sur ces cinq entreprises. On parle de quoi, de quel type de produits?
Alors c'est que des produits physiques. La première entreprise sur laquelle on vient de clôturer une levée de 700 000 euros, c'est un dispositif qui soulage les bouffées de chaleur chez Fab à l'âge de la ménopause en fait. Ça permet aussi de traiter les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Donc ça c'est un produit qu'on industrialise en France avec une technologie qui est brevetée. On a aujourd'hui qu'un seul concurrent qui est américain, qui a levé 42 millions de dollars, qui n'est pas présent en Europe, et on se dit voilà qu'il y a un marché significatif à adresser. On est aussi au capital de My Mooney. C'est une entreprise qui fabrique une ceinture chauffante massante pour soulager les règles douloureuses et l'endométriose. Ça touche plus d'une femme sur 10 en France. Et on fait d'autres solutions. On a par exemple racheté très récemment Kipit, donc l'entreprise toulousaine qui fabriquait des bouilloires, ce qui fait écho effectivement à mon passé dans l'électroménager avec le lave-vaisselle Bob. On est rentré au capital de Lumside qui fabrique des solutions de désinfection UV sans chimie, donc pour éviter l'exposition des utilisateurs et des perturbateurs endocriniens. Et on est également au capital de Lysia qui fait une lampe de lecture dont le produit vient de sortir. En fait, on a une industrialisation sur les 9 derniers mois. Donc nous, ce qu'on a fait sur chacune de ces boîtes, c'est d'une part les aider sur la partie structuration financière avec une intervention au capital en haut de bilan pour leur permettre de faire des effets de levier et derrière un accompagnement pour sortir le produit tout simplement.
Alors je précise, on l'a pas dit que BIM, ça veut dire Banque des Industries Manufacturières, donc il y a vraiment un aspect de financement. Vous me parliez de deux levées de fonds, c'est à quel niveau et à quoi vont vous servir ces levées de fonds? Est-ce que c'est pour les cinq entreprises dont vous venez de nous parler ou quels sont les autres projets de BIM Group?
Alors nous en fait, BIM Group, on a levé un premier fonds précis de 1 million d'euros. Donc ça, c'est ce qu'on déploie sur 2023. Donc l'idée étant d'investir 5 tickets de 200 000 euros pour faire une preuve de concept de notre stratégie d'investissement. Et donc là, par exemple, sur Atana et sur My Mooney, dans chacune de ces boîtes, on est intervenu à hauteur de 200 000 euros en haut de bilan. Et derrière, on est allé chercher des investisseurs suiveurs qui nous ont permis de mobiliser sur chacune des boîtes 700 000 euros, de quoi sortir le produit dans chacun des cas.
L'industrie française, on en parle beaucoup donc au cœur de ces émissions spéciales, au cœur de l'été sur l'industrie. Comment vous jugez l'état de l'industrie? On a eu des intervenants qui nous parlaient de verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Est-ce que vous, c'est un propos médian? Quel est votre point de vue sur l'état de l'industrie en France actuellement?
Alors, globalement, beaucoup d'industriels ont été pénalisés par ce qui était la hausse des coûts de l'électricité. Ça, c'est vrai. Après, aujourd'hui, moi, je suis assez optimiste parce que sur toutes les boîtes qu'on accompagne, on est la preuve, en fait, qu'on arrive à fabriquer en France au même prix qu'en Chine. Pour vous donner un exemple, Jérôme, My Mooney avait fabriqué la première version de sa ceinture au Maroc. On a rapatrié la production en France et on est moins cher que le Maroc. Donc, clairement, moi, je suis convaincu qu'on peut fabriquer en France à des prix compétitifs. La seule chose, c'est que derrière, il faut avoir un savoir-faire et c'est ce que nous, on apporte aux boîtes qu'on accompagne, typiquement sur My Mooney et Atana. Sur Atana, on a divisé par 3 le prix par rapport à ce qu'avaient fait les précédents bureaux d'études. Et sur My Mooney, donc la ceinture chauffante, on a baissé le prix pour être moins cher en France qu'au Maroc.
Alexandra Paget.
Mais si on revient sur les gigafactories, Damien, on peut dire que vous aidez à éclore des mini-factories. Mais est-ce que l'un et l'autre peuvent communiquer les uns avec les autres? C'est-à-dire que est-ce que les gigafactories entraînent les mini-factories? Est-ce que votre système de financement peut entraîner aussi que ces mini-factories deviennent très grosses, et vous-même d'ailleurs?
Tout à fait. Alors nous, en fait, notre vision à terme chez BIM Group, c'est effectivement d'avoir une usine mutualisée, puisqu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des briques technologiques et en fait, au sein de toutes nos participations, on leur fait bénéficier de ces innovations qu'on a développées. Donc l'idée, à moyen terme, c'est de se doter d'une structure de production mutualisée qui nous permette aussi de mutualiser des effets d'échelle et de passer, en fait, si vous voulez, d'une grappe de mini-factory à une seule gigafactory mutualisée. Parce que quand vous regardez ce qui est fait, par exemple, au niveau d'Atana et de My Mooney d'un point de vue électronique, c'est quasiment la même chose. Alors, les applications sont complètement différentes. Et donc, en continuant à répéter ça sur quelques dizaines de boîtes, on aura la capacité, sous un horizon de 1 à 3 ans, à avoir une usine mutualisée, entièrement fonctionnelle et chargée en permanence.
Mais avec plusieurs petites cellules à l'intérieur, si j'ai bien compris.
Exactement. En fait, si vous voulez, la difficulté qu'on a une usine, c'est d'ajuster ce qu'on appelle le plan de charge. C'est un peu comme EDF, c'est-à-dire qu'il faut, en termes de personnel mobilisé, qu'on ait toujours à peu près le même nombre d'ETP mobilisés. Sinon, il faut faire appel à de l'intérim, etc. Et donc, en fait, l'intérêt de mutualiser, c'est que derrière, ça permet de lisser les ressources sur l'année. Et du coup, en fait, de pouvoir recruter des emplois long terme en CDI, parce que derrière, on sait qu'on a de quoi les occuper tout le temps.
Une toute dernière question, Damien Py, sur est-ce qu'on peut tout produire en France? Est-ce qu'on peut tout manufacturer? Est-ce que ça vaut le coup de relocaliser des choses qui sont faites à l'extérieur? Quel est votre point de vue, vous qui connaissez si bien la production industrielle française?
Alors, je pense effectivement qu'on peut produire, qu'on peut tout produire en France, mais par contre, pas intégralement en France. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, aujourd'hui, tout est faisable en France. On maîtrise l'injection thermique, l'assemblage électronique. Et derrière, il y a forcément des composants, par exemple les composants électroniques, qui vont venir de l'étranger. Et en fait, la clé pour faire du Made in France à prix compétitif, c'est l'export, pour atteindre des volumes suffisants, pour avoir des prix qui sont compétitifs par rapport aux concurrents. Et c'est la raison pour laquelle, avec BIM Group, on accompagne toutes nos entreprises, Alifa à Berlin en septembre, Ogitex à Dubaï en octobre, et au CES de Las Vegas en janvier prochain.
Merci beaucoup Damien Py, je vous laisse au Cigale Dromoise. Merci beaucoup pour votre intervention. Cet été, je vous rappelle que deux autres émissions hors série sont à retrouver sur nos antennes télé, radio et digital, bien sûr, site et appli de BFM Business, consacrées donc toutes ces émissions à l'industrie. On se retrouve nous bien sûr à la rentrée pour une 8e saison de La France a tout pour réussir. Ce sera dès le 1er septembre à l'occasion de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France depuis l'hippodrome de Longchamp. Merci beaucoup Alexandra Pagé pour la préparation de ces émissions spéciales. Et nous, on se retrouve donc à la rentrée. Très bel été, très bonnes vacances et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.